Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Oui, on continue notre série dans le livre de Tite parce qu'on aime bien les prédications textuelles où on suit un livre de la Bible. Et ce soir, c'est les gardiens de l'Évangile. C'est un peu comme un film. Je suis désolé, ça va être un peu moins passionnant qu'un film comme les gardiens de l'Évangile. Mais ça va être peut-être plus essentiel. Parce que le sujet de ce soir, c'est le leadership dans l'Église. Et le type de leader que vous recherchez dépend de votre type de groupe. Les lions, par exemple, ont tendance à être dirigés par le lion le plus lionesque. C'est ça? Vous n'êtes pas des lions, donc vous n'avez aucune idée. Ah, mais c'est vrai, oui. Meilleur combat, meilleur à trouver de la nourriture. Mais que recherchons-nous comme leader dans une église? Ben, le plus intelligent, le plus charismatique, le meilleur orateur, le plus stratégique, avec le plus de connaissances bibliques, ou le plus saint, le meilleur évangéliste? En fait, avons-nous même besoin d'un chef? Jésus est le vrai dirigeant, c'est vrai, de l'église. Pourquoi faut-il des leaders? C'est le sujet pour aujourd'hui, leadership dans l'Église, et nous pourrions avoir ici parmi nous des opinions différentes à ce sujet, qui ont été façonnées par nos origines. Et l'histoire nous montre toutes sortes de bons et de mauvais exemples dans l'histoire, mélangés avec la politique, mélangés avec le pouvoir, les abus institutionnels, les positions inventées, les titres bizarres, les robes splendides, les chapeaux un peu amusants. Le leadership dans l'Église peut être incroyable. Mais on va examiner ce que la Bible dit aujourd'hui à Tite à propos du leadership dans l'Église. Donc on va... Est-ce que ça marche? Ah oui. Ça va. OK. On va commencer en lisant le texte. Tite, chapitre 1, verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'entendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchir, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole digne de confiance telle qu'elle a été enseignée. Afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. C'est Paul qui parle à Timothée et j'ai essayé de résumer un peu le message aujourd'hui en tant que l'Église doit être mise en ordre par les anciens locaux qui ont été formés et qui tiennent fermement à l'Évangile. La première chose qu'on voit ici, c'est l'importance de l'autre. Et on voit ça tout de suite dans le verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Ça veut dire que Tite n'a pas raté le train de Paul. OK? Paul était dans un voyage de mission. Il a implanté des églises en Crète et il a laissé Tite là. Tite a été laissé par Paul pour mettre en ordre l'église. Donc on voit l'importance de l'autre dans l'église et l'importance de l'autre contre le chaos. Cela ne nous surprend pas si on connaît la Bible. Parce que Paul dit à l'église de Corinthe, il dit... Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et verset 40, « Mais que tout se fasse convenablement et avec autre. » Donc, l'autre est très important. Dieu est un Dieu d'autre. On le voit bien au début de la Bible, dans Genèse 1. Genèse 1 est le récit de la création du monde par Dieu. Et Genèse 1, il y a une structure très rigide en Genèse 1. Dieu parle, qu'il y ait de la lumière. Désolé pour ma voix, mais ça va. Dieu parle et cela se produit. Dieu parle et cela se produit. Dieu parle et cela se produit. D'autres camps de création, comme le Numa Elish, sont des camps de création d'autres cultures de cette époque. C'est le chaos total. Les dieux se battent entre eux, créant accidentellement les choses lorsque le sang touche la terre. Honnêtement, c'est le chaos. Lisez-le en ligne. Genèse 1 est ennuyeuse en comparaison. Mais c'est un autre. Le soleil n'est pas un dieu à adorer comme dans d'autres religions. C'est simplement une lumière que Dieu place dans le ciel et qui peut être étudiée. Et c'était cette vision du monde, un monde ordonné avec des règles et des lois qui peuvent être étudiées, qui a produit la révolution scientifique. La science n'est pas en conflit avec le christianisme, c'est le résultat du christianisme, de la vision du monde chrétien, une vision du monde ordonnée. Si tu veux creuser un peu plus ce sujet, trouvez Peter Harrison, il est le prof de l'université d'Oxford qui a créé des livres sur ce sujet. Mais ok, je vais fermer la parenthèse maintenant. Mais Dieu aime bien l'autre. On voit l'importance de l'autre et on voit l'importance de l'autre contre les faux enseignements. Ça veut dire qu'on verra que l'un des problèmes majeurs de Tite est la présence de ceux qui déforment et tordent l'évangile de Jésus. Il y a des gens, on peut voir dans les versets immédiatement après, qui égarent les gens loin de la vérité de Jésus. Mais c'est depuis le début de la Bible, il est clairement important de se garder, de former la parole de Dieu. Après tout, la première tentation arrive. Avec quel mot? Dieu a-t-il vraiment dit Genèse 3? Donc il n'est pas surprenant qu'ici, Paul déclare à Tite que l'Église doit être mise en ordre, contre le chaos, contre les faux enseignements. Mais comment? Comment mettre en ordre une église? Par une liste énorme de règles? Par une institution? Par Paul à distance via WhatsApp ou quelque chose comme ça? Ou un représentant de Paul? Pourquoi avons-nous même besoin des leaders? N'est-ce pas Christ notre berger? Pas le verset, le reste de verset 5 nous dit: je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Le « et » a une force logique presque ici. Il explique comment l'Église sera mise en ordre en nommant des anciens. Pas par Paul de loin, ni par une démocratie dans l'Église. D'abord que si c'est une bonne chose, mais ici c'est même pas Jésus, bien que ce soit naturellement le leader en chef, l'Église doit être mise en ordre par les anciens locaux. Dieu veut que l'Église soit dirigée par des anciens, des personnes de chair et de sang, qui sont des exemples concrets, vivants, de l'œuvre de l'Évangile, qui l'ont expérimenté, qui la vivent et qui peuvent s'y tenir fermement. Pas Paul ou un évêque à distance, mais quelqu'un qui a des relations, qui est en communauté, en communion avec les autres dans l'Église. Et on peut voir que Paul a eu l'habitude de faire ça. En Actes, après avoir implanté des églises, il est revenu et ensemble avec les autres, ils désignèrent des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. L'église doit être mise en ordre par les anciens locaux formés par l'Évangile en qui ils avaient cru. Je veux que l'église soit comme ça. Et c'est quoi exactement l'Évangile? Mais il faut qu'on juste voit exactement ce qui est la bonne nouvelle avant de continuer. Et Paul nous dit, explique la bonne nouvelle un peu plus tard en Tite 3. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion. L'Évangile n'est pas ce qu'on fait pour Dieu. Tu vois là? C'est pas, il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir. Non, ce n'est pas ce qu'on fait pour Dieu, mais ce que Dieu a fait en Jésus pour nous. Et l'Église doit être mise en ordre par des anciens locaux qui ont été formés par cet Évangile. Et Paul entre dans les détails maintenant pour nous montrer à quoi cela ressemble. Donc, premièrement, il ressemble les relations familiales formées par l'Évangile. Je vais lire verset 6 pour nous, OK? Des hommes irréprochables, fidèles à leur femme, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. Honnêtement, pour moi, cela soulève beaucoup de questions. Peut-être pour toi aussi. Qu'est-ce que cela signifie d'être irréprochable? Parfait? Mais qui est parfait? Faut-il qu'un ancien soit marié ou célibataire? Ça marche. Faut-il qu'un ancien soit homme ou femme? Comment contrôler si ses enfants sont croyants? Comment contrôler ses enfants? Ça, c'est ma question. Aïe, aïe, aïe. Donc, premièrement ici, irréprochable. Seul Dieu est parfaitement irréprochable, c'est clair. Paul le sait, il le dit plus tard dans la lettre qu'on n'est pas du tout parfait. Donc ici, irréprochable ne peut pas dire parfait, mais ça veut dire au-dessus du reproche clair. Que sa vie et ses relations sont en accord avec le plan de Dieu. Ses relations familiales, ici, comme voir, les conjoints et les enfants sont en accord avec le modèle de Dieu. Donc ça, c'est irréprochable. Marié, célibataire. Mais un ancien doit-il être marié? Je ne pense pas, parce que le texte met l'accent sur la fidélité à sa femme. Paul décrit la situation de la majorité des gens au premier siècle. La grande majorité était mariée. Il serait étrange de n'autoriser que les anciens mariés, étant donné que Paul, Timothée, Jésus lui-même étaient célibataires. Paul écrit de manière si positive à propos de la vie de célibataire dans 1 Corinthiens 7. Ici, c'est presque comme on dit, s'il est marié, il n'a alors qu'une seule femme. Ça, c'est l'accent ici, une seule femme. Et implique la fidélité du mariage, c'est là. Donc ça, c'est marié célibataire. Mais donc, si on n'est pas strict avec les choses marié célibataire, est-ce qu'il faut qu'un ancien soit homme ou femme? Une femme peut-elle être un ancien? Après tout, il est clair dans la Bible, dans Genèse 1, que les hommes et les femmes sont également créés à l'image de Dieu. Ça, c'est clair. Ils sont totalement égaux. C'est clair qu'en Christ, Galates 3, verset 28, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. C'est clair qu'elles soient les co-héritiers de la vie éternelle. 1 Pierre 3, verset 7. C'est clair que les femmes étaient... C'est clair que les femmes étaient essentielles pour soutenir le ministère de Jésus. Vois ça dans les évangiles, c'est clair. Et qu'ils valorisaient et attendaient leur ministère. Et c'est clair aussi que Paul travaillait avec de nombreuses femmes tout au long de son ministère. C'était toujours le cas. Si bien que l'Église primitive avait un pourcentage de femmes plus élevé que la culture environnante, en raison de leur valeur égale et de leur rôle énorme dans l'Église. Ça, tout ça est clair. Mais il me semble que lorsqu'on examine le leadership dans l'Église et les exemples dans le Nouveau Testament, il semble que le schéma soit les dirigeants masculins et les anciens masculins. Le leadership masculin peut être chauviniste, sexiste, dominant, abusif. Mais ça, c'est l'influence terrible du péché et les défauts terribles des hommes. Le leadership masculin peut être sage, doux, libérateur comme Jésus. Et c'est ce qui est envisagé ici. Si tu veux en parler un peu plus tard avec moi, viens me voir. Je l'aimerais vraiment. Ce n'est pas une question facile ici, mais on n'a pas le temps de traiter avec la profondeur qu'elle mérite maintenant. Mais le dernier aspect ici, est-ce qu'un ancien doit-il avoir les enfants croyants? Il dit, la dernière partie, il dit, « Dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. » Le mot « croyant » ici, c'est le même que « fidèle ». Ils sont exactement le même mot qu'on utilise pour « fidèle » et « croyant ». Et ça peut dire « chrétien », mais je crois que c'est plutôt l'idée qu'ils sont obéissants, qu'ils sont fidèles à leurs parents. Parce qu'on voit les mots après, « ne soient pas accusés de débauchement insoumis ». Donc l'idée, cela signifie donc, qu'ils entretiennent de bonnes relations avec leurs parents. C'est un peu la même idée qu'on voit en 1 Timothée 3, verset 5. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Donc les anciens devraient donc avoir des relations familiales, formées par l'Évangile. Mais pas juste les relations, aussi les caractères formés par l'Évangile. Le verset 7 nous donne une image. Verset 7. En effet, en tant qu'entendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. En tant qu'entendant de Dieu. L'image fait référence à une personne du premier siècle qui s'occupait du ménage et qui avait la confiance totale de son maître. Et ça, c'est l'idée d'un ancien qui a la confiance totale de son maître Dieu. Quand j'étais plus jeune et quand j'avais les chevaux, je suis allé chez le coiffeur le moins cher. Peut-être il y avait qui sait, $5 à ce temps. Et il était dans un salon sans affiche, sans panneau, dans une pièce un peu éloignée de la rue principale. Honnêtement, je me demandais si quelqu'un savait qu'il était là ou s'il payait un loyer. Donc, il y avait beaucoup de reproches, beaucoup d'indices qui étaient là, qui n'étaient pas toujours bons. Mais le plus gros problème était qu'il était chauve, en fait. Qui est un peu juste. C'est un peu juste parce qu'on peut être un bon coiffeur et chauve autant. Mais vous ne savez pas s'il est digne de confiance pour prendre soin de vos chevaux parce qu'il n'en avait rien. C'est un exemple un peu ludique. Mais l'idée, c'est qu'il y avait beaucoup d'indices, beaucoup de questions autour de lui. Mais l'idée ici est de quelqu'un qui prend soin de la maison de Dieu, qui devrait être totalement digne de confiance. Pas à propos de ses chevaux, de sa taille, de son intelligence, de son sens d'humeur, de sa personnalité, mais de son caractère. Il fait que le responsable soit irréprochable. Il utilise le même mot qu'avant. Et ça implique un caractère visible, connu, évident, observable. Il explique ce caractère, juste ça. Il nous donne une liste des caractéristiques négatives et les caractéristiques positives. On va voir les caractéristiques négatives premièrement. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Arrogant. Mais le mot arrogant et le mot confiance, c'est quoi la différence en fait? Parfois, l'assurance ou la confiance peuvent être considérées comme de l'arrogance. Et j'ai vu des dirigeants critiqués pour arrogance alors qu'ils disaient simplement quelque chose de ferme. Mais l'arrogance, la différence peut-être, est leur attitude vers les autres. Quelqu'un qui est arrogant est condescendant, dominateur, autoritaire, ne pense qu'à ses propres besoins. Et l'arrogance, en fait, toutes les qualités ici sont totalement opposées à l'évangile, selon lequel les humains sont des pécheurs qui dépendent de Dieu. Tu vois ça? Toutes les qualités-là sont le contraire de l'évangile. L'arrogance trahit un cœur qui ne vit pas l'évangile et ne se fie pas à Dieu, mais qui compte plutôt sur leur intelligence, leur personnalité. C'est une qualité qui annule le leadership chez un dirigeant chrétien. L'ancien n'est pas le médecin d'un hôpital de pécheurs, il est lui-même l'un des principaux patients. C'est ça. Et les autres qualités s'opposent à l'évangile d'une manière un peu différente ici. Quand quelqu'un est un buveur ou attiré par le gain, il me semble que cela montre qu'il y a dans sa vie quelque chose de plus important que Dieu. Tu vois? Une idole, un désir ou un confort qui le guide, que ce soit pour boire ou pour gagner l'argent. Il y a quelque chose dans la vie autre que Dieu. On voit ici qu'être colérique ou violent peut signifier qu'ils sont guidés par leur désir, leur passion, leur frustration, et qu'ils manquent de maîtrise de soi, de manque de soumission à Dieu. Juste une petite parenthèse ici, un mot sur la violence et le colérique. Ce sont deux formes d'agression, physique et relationnelle, dont nous sommes beaucoup plus conscients à notre époque. La Bible a toujours été claire sur le fait qu'il n'y a aucune excuse pour l'agression verbale ou la violence physique. Dans une relation conjugale, ni dans aucun autre type de relation, et en particulier dans la direction d'une église. Donc il est toujours parmi nous, toujours important de signaler quelque chose de semblable à un ancien, un chef de l'Église. Et si un ancien domine ou abuse de son autorité, il ne faut pas négliger ça. Parfois, malheureusement, l'Église a tragiquement minimisé un peu l'importance de donner suite à de tels incidents. Au lieu de les condamner ou de les abolir, nous avons traîné un peu nos talents et les avons cachés un peu. Nous ne devrions pas être comme ça et nos anciens ne devraient pas être comme ça. Ça, c'est les caractéristiques négatives. Mais il y a les caractéristiques positives ici aussi. Verset 8. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui. Juste une question pour vous. Si vous deviez écrire une liste des qualités que vous souhaitez chez un ancien, quel serait le premier? Vous trichez maintenant parce que vous pouvez voir ça. Mais j'imagine probablement pas ce que Paul a ici. La première qualité, c'est l'hospitalité, être hospitalier. C'est un peu bizarre ça. Mais c'est clair, en fait, dès qu'on réfléchit un peu, c'est le contraire de ce qu'on veut avant. Attiré par le gain, en fait, avec l'hospitalier, on a la volonté de donner. La volonté de donner notre argent, notre temps, notre maison aux autres. D'être comme Dieu, ouvert, accueillant. Chez toi et à l'église. Et ce n'est pas seulement avec les chrétiens avec lesquels on s'entend bien. Pas juste avec nos amis. Le mot hospitalier, c'est en grec, c'est philoxénos. C'est philoxénos. Xénos, c'est le mot d'où vient xénophobe, la peur d'étrangers. Et donc, philo, c'est l'aimant, quelqu'un qui aime les étrangers. Donc, ce n'est pas juste des amis ou des gens que vous connaissez, c'est les étrangers. Quelqu'un qui prend l'initiative d'accueillir les gens nouveaux. J'ai un ami appelé Rory qui avait pour habitude d'ouvrir toujours le plus large possible ses invitations. Tu arrives chez lui, tu pensais que c'était moi, ma femme et eux, et tu arrives, et il y a beaucoup d'autres là aussi, parce que Rory a l'habitude d'inviter les autres chez lui. C'était magnifique, c'était incroyable. On voit aussi ici les qualités d'être un ami du bien, juste, saint. Et ils vont ensemble ces qualités. Ils parlent d'un engagement moral, d'une passion. Ne pas être perçu comme bon, juste, respectable, mais parce qu'il aime les choses bonnes et saines. Et on voit ici que il me semble que réfléchir et mettre de lui vont de pair aussi. Qu'un ancien ne soit pas facile à remuer, qu'ils sont réfléchis, maître doué, pas à la merci de pressions extérieures, pas facilement manipulables, mais stable, calme. Les gens disent qu'il faut des années pour se faire une réputation et un moment pour la détruire. Un ancien doit être calme et stable. Tite aura besoin de maîtrise de soi, de discipline lorsqu'il fera face à ces faux enseignants qu'on va voir dans les semaines à venir. Et nous devons voir ces qualités au fil du temps chez quelqu'un. C'est pourquoi Paul dit ailleurs qu'ils ne doivent pas être de nouveaux croyants. Ces choses prennent un certain temps avant d'être apparentes chez quelqu'un. L'Église doit être mise en ordre par les anciens locaux formés par l'Évangile, dans leurs relations familiales et dans leur caractère. Et finalement, verset 9, les gens qui tiennent fermement à l'Évangile, attachés à la parole digne de confiance telle qu'elle a été enseignée. À la phrase « parole », attachée à la parole digne, ça c'est l'Évangile. Paul utilise la même phrase pour décrire l'Évangile en chapitre 3. Donc l'ancien doit tenir fermement à l'Évangile, tel qu'elle a été enseignée. Les anciens n'ont pas à être imaginatifs ou créatifs. On ne veut pas les anciens comme ça. Ils doivent être ennuyeux, répétitifs, mais fidèles avec l'Évangile. Avec l'Évangile. Attachés. Ça, c'est être fidèle, tenir fermement. Ah, je suis un fan de football, et je suis un vrai fan. Et il y a une règle bien connue par les vrais fans, que vous ne pouvez pas changer du club. C'est vrai? Est-ce que quelqu'un est un vrai fan ici? Pas beaucoup, je vois. Bon, merci. Quand je parle avec quelqu'un, et que celui-ci dit, « Ah, j'ai déjà soutenu ce club, mais maintenant je soutiens un autre », je me dis déjà, « Non, ce n'est pas un vrai fan. » Désolé, il n'a aucune idée. Vous ne pouvez pas changer de club, OK? Mais de même, un ancien dans une église ne peut pas changer l'Évangile. Un ancien ne peut pas la rendre plus facile ou plus difficile. Un ancien ne peut pas changer l'évangile, il ne peut pas rendre l'évangile plus intéressant ou éviter les aspects gênés pour notre société. Non, un ancien doit tenir fermement à l'évangile. Cela ne veut pas dire que les anciens doivent rester fermés dans la pratique de l'Église. Les rituels, les habitudes ou l'histoire de l'Église. Ces choses peuvent être utiles ou peuvent freiner l'Évangile. Mais ils doivent s'en tenir à l'Évangile et à l'autorité de l'Évangile. Verset 9 continue. Afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il me semble qu'on peut voir les deux aspects. Ça, c'est le dernier point. C'est les deux aspects ici. Encourager et réfuter. Enseigner et corriger. Tu vois ça? Encourager les saintes doctrines. Est-ce qu'on peut écouter les loups? En fait, c'est très important. Parce qu'un ancien doit avoir une voix, Calvin en fait, Calvin a dit qu'un ancien, un pasteur a besoin de deux voix. Une pour rassembler des moutons et l'autre pour chasser les loups et les voleurs. Refuter les contradicteurs. Merci les enfants. Ah, donc c'est les trompettes, pas les loups. Je me demande si ça a marché avec les loups. je me doute. Mais le point ici, c'est encourager les autres par la sainte doctrine. Et donc, une bonne doctrine, c'est un enseignement en accord avec l'Évangile. Donc, un ancien doit savoir comment vivre l'Évangile et que ce que la Bible enseigne sur différents sujets. Pas seulement la connaissance, il devrait être impliqué dans la discipline et le discipulat. Un ancien devrait un peu avoir les relations avec les gens dans l'Église. Être un ancien ne consiste pas à aller à des réunions, à être bon en administration, à équilibrer un budget ou à savoir voter. Non, il s'agit de former, d'enseigner, d'encourager. Les bergers guident les moutons. Mais la dernière partie ici, c'est réfuter les contradicteurs. On entendra beaucoup parler de cela dans les semaines à venir, mais c'était le contexte pour Tite ici, avec beaucoup de voix différentes. Il devait nommer des gardiens de l'Évangile. Il est facile de laisser la vérité se diluer, d'oublier, de présumer, de s'adoucir, de changer. L'ancien doit réprimander ceux qui tentent de changer le message. Un ancien ne peut pas être un chercheur de conflits, mais il ne peut pas non plus éviter les conflits. Il sera prêt à rester ferme et à dire non. Cela peut se produire dans la discipline de l'Église lorsque des personnes qui se disent chrétiens et ont une relation avec l'Église vivent d'une manière qui contredit manifestement l'Évangile. Cela nécessitera toujours de la sagesse, du calme, la sensibilité, de l'amour. Mais cela devrait être fait par les anciens, individuellement et de temps en temps corporellement. Une fois dans mon ancienne église en Australie, il y a eu un voyage, un week-end qui s'appelle Jazz in the Vines. Ça veut dire qu'un concert de jazz dans un vignoble. Oui, c'est ça. Et il y a eu un peu trop de vignes dans le jazz, si je peux dire ça, parmi les chrétiens qui sont allés. Et notre pasteur se sont levés à l'église et ont corrigé avec gentillesse les gens en leur rappelant une approche sensée de l'alcool. Et j'avais invité des amis à l'église pour la première fois et honnêtement, au début, j'étais « Oh non, pas mal. Ce dimanche, pourquoi ce dimanche? » Mais à la fin, j'étais fier. Honnêtement, fier d'être dans une église où la discipline était pratiquée d'une manière aussi ouverte et sensible en même temps. Tenir fermement l'Évangile, enseigner la sainte doctrine et réfuter les contradicteurs. Qu'est-ce qu'un passage comme celui-ci signifie pour nous à l'Église? J'ai deux, trois points. Premièrement, priez pour et soyez reconnaissants pour nos dirigeants. Nous avons le grand privilège d'avoir des bons dirigeants qui incarnent ces caractéristiques. Priez pour eux, soyez reconnaissants, écoutez-les. Deux, choisissez de bons leaders quand l'occasion se présente. Donc, si vous êtes dans une église ou ici et que nous nommons des anciens, réfléchissez bien à des textes comme celui-ci et déterminez, décidez si les futurs anciens, les anciens proposés, incarnent ces qualités. Regardez-les. Sérieusement, juste regardez-les et voyez s'ils sont comme les caractéristiques qu'on a vues là. Et troisièmement pour nous, parce que toutes les qualités ici, on peut les trouver dans le Nouveau Testament pour tous les chrétiens, sauf capables d'enseigner, mais on peut voir ça aussi, d'un côté ou d'un autre. Donc, si les qualités sont exigées de tous les chrétiens, il ne faut pas penser, je veux être un ancien. Il faut penser, je veux être formé par l'Évangile. Je veux avoir des relations familiales formées par l'Évangile. Et je veux avoir un caractère formé par l'Évangile. Pour la gloire de Dieu et pour ma joie en tant que chrétien. Donc, prions.